les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Lise Marie Cassar, Alexandre Marlier.
Notre dossier du jour est consacré aujourd'hui, Sarah, à ma sorcière bien-aimée.
Et remuer le nez était, paraît-il, un tic d'Elizabeth Montgomery. Je parle bien entendu de l'actrice qui incarnait Samantha. La série a été créée en 1964 par Saul Sachs. Elle a duré 8 saisons de 252 épisodes. La France l'a découverte en 1966. Lise Marie revient aujourd'hui sur cette fiction entrée dans l'histoire du petit écran avec un grand H.
Oui, mais justement, l'histoire de cette série avec un petit H raconte l'histoire d'une ravissante sorcière, Samantha, qui tombe désespérément amoureuse de Jean-Pierre, un mortel. Entendez par là, bien entendu, un non-sorcier. Alors, aux yeux de tous, les Stephens forment un couple normal et heureux. Leur ravissante petite demeure est très bien tenue par madame et monsieur travaille pour une boîte de publicité. Mais le fait que Sam soit une sorcière va évidemment venir perturber cet équilibre tranquille. Samantha promet à son nouvel époux de renoncer à la sorcellerie et de se conduire en parfaite femme au foyer contre l'avis de sa mère, Andorra. Mais il est bien difficile pour Samantha de tenir sa promesse et elle va remuer son nez un peu trop souvent au goût de Jean-Pierre. Ce couple modèle à l'américaine a également deux enfants. Une fille, Tabata, qui ne comprend pas non plus pourquoi elle ne veut pas utiliser ses pouvoirs magiques et elle apparaît dès la deuxième saison. Et un fils, Adam, qui naît lors de la cinquième saison. La mère de Samantha, Andorra, ne pardonne pas à sa fille d'avoir épousé un non-sorcier et les joutes verbales entre la belle-mère et son gendre font partie maintenant de l'histoire de la télévision. Le succès de la série réside dans un subtil mélange de comédie et de fantastique et le tout est servi par des comédiens brillants. C'est vraiment l'intérêt de cette série, c'est le jeu des comédiens. Les personnages principaux sont bien entendu Samantha, Jean-Pierre et Andorra, comme je viens de l'expliquer. Samantha, c'est la sorcière bien-aimée. Amusante, pleine de malice, elle tente de vivre sur la terre des hommes sans se servir de ses pouvoirs magiques, comme je l'ai dit, mais la tâche n'est pas facile. Elle tombe souvent dans des situations désespérées et catastrophiques, et il faut bien que pour dissimuler son secret aux yeux de tous, elle y ait justement recours à la magie. Régulièrement, viennent lui rendre visite sans crier gare sa mère Andorra, son père Maurice et une foule d'oncles et tantes, dont Clara et oncle Arthur, qui sont les plus comiques et les plus cocasses, et qui viennent faire de la sorcellerie dans le salon régulièrement.
Mais un autre visiteur de la famille Stevens, c'est les voisins.
Oui, monsieur et madame Kravitz, qui sont aussi extrêmement drôles, vu que madame Kravitz croit avoir des hallucinations fréquemment. Son mari ne la croit évidemment pas et essaye de lui donner des médicaments pour qu'elle oublie ses hallucinations. Ils sont assez cocasses. Il y a aussi donc Jean-Pierre, qui est marié à Samantha. Il tente de mener une vie d'homme tout à fait normale. Et lui, ça le perturbe énormément, évidemment, quand il voit des sorciers débarquer dans son salon à tue-tête. Il est l'éternel souffre-douleur des sorciers qui envahissent sa maison. Et il est impossible de dénombrer le nombre de sorts qui lui sont jetés par Andorra, Serena aussi, la cousine de Sam. Il sera tour à tour transformé en chimpanzé, gorille, mule, dinde, grenouille, loup-garou aussi. Donc c'est vraiment pas des animaux qui l'avantagent, loin de là. Et alors selon les épisodes, il devient aussi invisible, redevient petit garçon ou vieillit subitement de 40 ans.
Tu le disais, Jean-Pierre, elle souffre douleur des sorciers, mais pas que des sorciers. Il aime bien se faire frapper, Jean-Pierre, parce qu'il a aussi son patron qui vient souvent l'embêter.
Oui, justement.
Il n'est pas des plus tendres avec lui.
Je vais en parler d'Alfred Tate, qui est son patron et son ami aussi. Mais
enfin, un ami.
Un ami qui, quand même, dès qu'il le peut, remet toutes les catastrophes qui se passent au bureau sur le dos de Jean-Pierre. Donc Alfred Tate est redoutable en affaires et il se met souvent dans des situations délicates, en faisant souvent irruption au domicile familial des Stevens. Il ne se rend jamais compte que certaines choses anormales se passent chez eux. On voit aussi souvent Jean-Pierre au bureau, et quand Alfred Tate est là et que des clients sont là, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien vis-à-vis du client, tous les malheurs retombent sur Jean-Pierre qui se prend des claques de partout.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au bureau, bien souvent, la magie va réussir à aider Jean-Pierre à trouver une nouvelle bonne campagne de publicité. Alors qu'il est complètement en panne d'idées, la magie va bien souvent pouvoir l'aider.
Oui, tout à fait. Ce sera une solution pour lui pour récupérer un client qui avait presque claqué la porte. Un des personnages vraiment que j'adore, c'est Andorra, bien sûr. C'est le stéréotype de la belle-mère que l'on redoute. Elle est acariâtre, autoritaire, désagréable et toujours là quand on n'a pas besoin d'elle. C'est une véritable sorcière, au sens propre comme au figuré, en fait. Hein. Elle aime profondément sa fille et ses petits-enfants, pourtant, mais ne supporte pas son gendre et ne se gêne pas pour le lui faire savoir. Par mépris, elle ne se souvient jamais de son nom. Elle l'appelle indifféremment Jean-Charles, Jean-Louis, Jean-Pietre, Jean-Foutre, machin-chose ou encore machin-chouette, mais jamais Jean-Pierre. Il y a aussi d'autres personnages, je vais en parler tout à l'heure, mais on pourrait les décrire chacun très profondément, mais je préfère me focaliser là-dessus sur le site internet et pas dans l'émission.
Parce qu'il faut dire que dans la série, il y a une galerie incroyable de personnages.
Tout à fait, ça j'en parlerai dans la deuxième partie de la redondance justement d'une foule de personnages.
Oh non, je vous en prie, j'ai horreur de ça. Mais que faites-vous avec ce masque ?
C'est obligatoire, j'arrive tout droit de la salle de travail.
Vous étiez auprès de Samantha ?
Je trouve que c'est la place normale d'une mère, non ? J'étais invisible, bien entendu.
Et alors, comment va-t-elle ?
Oh, Samantha vient de me présenter la plus adorable et la plus jolie petite fille qui soit.
Quoi ? La plus adorable petite... Comment, je suis le père d'une fille ?
Mais oui.
Oh, ce que je suis content ! Et Samantha, comment va-t-elle ?
À merveille, à merveille.
Andorra, mais qu'est-ce que je fais d'abord ? Je vous serre dans mes bras ou je vous offre un cigare ?
Il n'y a pas d'autre alternative.
Oh, j'ai une fille, Andorra. Oh. Oh. Oh.
Est-ce que vous nagez bien ?
Non, je coule au bout de trois brasses.
Oh. Bon, dans ce cas, il faut prendre des mesures urgentes.
Oh. Merci. Oh. Dites-moi, elle est jolie, comment est-elle ?
Oh, absolument ravissante. Oh. Elle est déjà très douée aussi.
Oh, très douée.
Oui. Pour commencer, elle a un merveilleux sens de l'humour.
De l'humour ? Un bébé ?
Figurez-vous que tout à l'heure, j'ai failli étouffer de rire. Quand le docteur lui a administré des claques pour la faire crier, elle s'est retournée et lui a envoyé une paire de gifles. C'était trop drôle.
C'est vrai ?
Non. Non, c'était pour vous taquiner que je disais ça. Oh.
Vous savez, Andorra, il y a des moments où vous êtes presque humaine.
Choisissez un autre jour pour m'insulter.
La série est très récurrente au niveau des personnages et des scénarios. La série présente un nombre impressionnant de personnages. Il est rare d'en trouver autant qui reviennent aussi souvent dans une série humoristique, en fait. Ma sorcière bien-aimée reste d'ailleurs la série comique la plus prolifique en personnages récurrents, je pense. Il n'y en a pas moins d'une quinzaine, qui est vraiment un record, et ils reviennent fréquemment. On les connaît tous après une saison, quoi. Hein. Ils sont vraiment fréquemment. Donc les personnages principaux incontournables sont bien sûr Samantha, Jean-Pierre et Andorra. J'en ai suffisamment parlé. C'est le trio infernal des premiers épisodes. Dans la première saison, on les retrouve tout le temps, vraiment eux trois. Mais très vite, on fera la connaissance de personnages secondaires récurrents, comme Alfred Tate, le patron, et son épouse Louise. Il y a aussi les voisins, Charlotte et Albert Kravitz, comme on en a parlé tout à l'heure, et la vieille tante Clara.
Qui est assez cocasse, elle aussi.
Ah, elle est terrible. C'est une vieille sorcière qui a des soucis de mémoire, donc elle oublie fréquemment les sorts qu'elle jette, elle oublie l'antidote pour qu'il soit annulé. Donc, c'est ça, on la repère quand elle atterrit dans la cheminée, et quand elle redécolle en oubliant ses chaussures au sol.
Oui, c'est fréquent, ça. C'est, oui. Il faut dire, pour expliquer, que les sorciers et les sorcières ne peuvent pas annuler le sort d'un autre sorcier. Donc c'est pour ça que ça pose problème quand elle oublie quand elle-même
exactement,
la formule.
Parce qu'elle jette le sort et il n'y a qu'elle qui peut l'annuler, mais elle ne la retrouve jamais tout de suite et souvent en fin d'épisode, ce qui fait une foule de catastrophes tout au long de l'épisode.
Un personnage qui disparaît à la fin de la troisième saison par le décès malheureux de l'actrice qui
bien
jouait
sûr,
le rôle.
Oui. Alors, il y a aussi des personnages épisodiques, comme le farceur oncle Arthur, les parents de Jean-Pierre, Phyllis et Frank Stephens, Maurice, le papa de Sam, ou encore sa cousine Serena, qui est jouée également par Elizabeth Montgomery et qui est simplement brune au lieu d'être blonde, mais c'est le portrait craché de Samantha.
L'anti-Samantha, on va dire.
Ah, tout à fait. C'est une vraie petite sorcière peste qui aime jeter des sorts, un peu comme Andorra. Elle lui ressemble assez, je trouve.
Et qui aime beaucoup charmer les humains.
Oui. On peut ajouter aussi une quantité qui n'apparaît que dans quelques épisodes seulement. De ce point de vue, la série est exemplaire de diversité de personnages se croisant, lançant des charmes, se disputant et faisant toutes sortes de choses affreuses dans le salon des Stephens. Le spectacle eut d'ailleurs des difficultés avec ses interprètes et plusieurs personnages durent être joués par des acteurs différents. Ce fut le cas de Jean-Pierre qui fut joué par Dick York qui participe à 116 épisodes. Il a été blessé sur un tournage d'un western avant de jouer dans Ma sorcière bien-aimée et a dû être remplacé en 69 par Dick Sargent. Gladys Kravitz aussi, donc la voisine, a été jouée par deux actrices différentes, la seconde étant nettement moins laide que la première. On le remarque.
C'est pas très sympa ça.
Non, mais alors Louise Tate aussi. elle a été jouée par deux autres personnes, la seconde étant nettement plus jolie, elle, par contre, que la première. Et Frank Stephens, aussi le père de Jean-Pierre, qui fut joué par plusieurs acteurs qui se sont succédés. Comme je l'ai dit, la récurrence se voit dans les personnages, mais aussi dans les scénarios, qui sont tous très loufoques. La plupart sont originaux et singuliers, pourtant, on en retrouve souvent des similaires. Donc, le principe d'Andorra qui jette un sort à Jean-Pierre qui se transforme en animal, on le retrouve très régulièrement. Comme tu l'as dit, Alex, il y a aussi les épisodes où Jean-Pierre a un problème au bureau, il manque d'inspiration, et... par un sort d'Andorra, il va savoir trouver l'inspiration. Je pense par exemple à l'épisode où il est transformé en petit garçon. Et c'est grâce à sa transformation en petit garçon où il va aller discuter avec d'autres enfants de son nouvel âge, 10 ans, qu'il va trouver vraiment l'inspiration pour réussir une super campagne de pub et récupérer un de ses clients.
Et donc finalement, Andorra n'est pas totalement inutile à Jean-Pierre.
Non, pas du tout. Elle l'aide souvent et les autres sorciers également. Même si les scénarios se ressemblent, la série est sans cesse renouvelée. On ne peut pas dire que c'est toujours la même chose dans cette série. Les créateurs prennent un malin plaisir à réutiliser les effets et les personnages aussi, mais ça enrichit toujours le scénario. Donc on ne se lasse jamais, on a toujours l'impression de voir vraiment des épisodes différents, même si on se rend compte avec du recul que c'est toujours la même chose, mais il y a toujours le petit détail qui fait qu'on adore le nouvel épisode qu'on vient de voir et qui est différent du précédent. Je voudrais encore parler un petit peu du générique, qui est assez original puisque c'est en fait un dessin animé où on voit apparaître Samantha dans le ciel avec un chapeau de sorcière et sur un balai volant. C'est un peu le seul moment où on la voit dans un vrai déguisement de sorcière. On voit le titre de la série, bien sûr, apparaître Ma sorcière bien-aimée. Et on retrouve ensuite Sam dans la cuisine, qui est en fait son deuxième lieu... habituelle, donc soit elle est sorcière, soit elle est femme au foyer. Apparaît alors Jean-Pierre qui vient l'embrasser sur la joue et un nuage d'épaisse fumée noire sort de la poêle qu'elle est en train d'utiliser et dans le nuage noir est inscrit le nom d'Andorra. Donc on voit vraiment qu'Andorra représente les soucis qui viennent embêter ce couple heureux.
Dire que tant d'années de soins maternels ont abouti à ce spectacle révoltant de ma fille à quatre pattes essayant de tirer du sol des oignons.
Je n'essaie pas de tirer du sol des oignons, je suis en train de planter des glaïeuls.
Je suis en train de te rendre ridicule, voilà tout.
Oh, maman, essaie de comprendre les choses, je t'en prie. Il est tout à fait normal de mettre des fleurs autour de sa maison, c'est ce que font toutes les femmes. Et puis, je trouve que planter des graines et les voir devenir des fleurs, c'est un miracle que nous offre la nature.
Oui, j'ai eu l'occasion de contempler un autre miracle de la nature ce matin. Quand machin chouette, enfin ton mari, est parti je ne sais où en te laissant toute seule.
Oui, seule, parce que je ne tenais nullement à le voir se couvrir de ridicule avec son bâton.
Se couvrir de ridicule avec quoi?
Son bâton, maman, c'est un terme technique.
Tu veux sans doute dire son manche à balai. S'il essaie de voler de la même façon que moi, il y a peu de chances qu'il y arrive.
Non, il ne s'agit nullement d'un balai, mais d'un bâton de baseball.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
C'est un sport que pratiquent les hommes. Tu n'as jamais vu ça?
Oh, ne dis pas d'absurdité, Samantha.
C'est un jeu passionnant. On se sert d'une balle et d'une grosse massue, qu'on appelle en termes techniques un bâton. Un premier joueur lance la balle à un deuxième joueur qui tient le bâton et tape dessus. Ensuite, tout le monde court après cette balle et pendant ce temps-là, le joueur qui tenait le bâton court dans un cercle tracé sur le terrain aussi vite qu'il peut avant que les adversaires l'aient rattrapé.
Tu n'es pas sérieuse?
Oh si, c'est le jeu que préfère mon mari.
Je ne peux pas le croire.
Et c'est le joueur qui a fait le plus de fois le tour du cercle qui a gagné.
Qui a gagné quoi?
Rien du tout. On dit qu'il a gagné.
C'est typique. Tout à fait typique. Ainsi, un être humain pour toi, c'est un malheureux idiot qui passe les meilleurs moments de sa vie à courir dans un cercle devant un tas de gens pour ne rien gagner.
Tu prendras bien un peu de café?
Avec joie.
Bon, alors je vais aller laver mes tasses et mes soucoupes.
Pourquoi?
Parce que pour l'instant, je n'en ai que deux. Nous n'avons pas encore acheté d'argenterie, ni de vaisselle, ni de linge de table.
Qu'as-tu à m'offrir comme café?
Du frais dans le percolateur. Je l'ai fait moi-même.
Non, alors garde-le. Je sens que ce sera un affreux breuvage, alors que j'ai envie d'une tasse de café turc aujourd'hui. Il est délicieux. Tu en veux un peu?
Non, merci. Et je te demanderai de ne plus faire ça.
Faire quoi?
Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Ici, c'est une maison quelconque, normale. Je m'efforce de ne pas recourir à la magie toutes les fois que je peux m'arranger autrement.
Tu es folle de dire ça, ma fille. Tu es ce que tu es, je t'assure que tu ne saurais rien y changer.
Mais je n'essaie pas de changer, je cherche seulement à m'adapter.
Prends garde, il va te remodeler à sa façon.
Non, je le connais, il n'y a rien à craindre.
Samantha, je te prédis qu'un jour, tu seras forcée de me donner raison. Je déteste faire comme tant de belles-mères qui ont la prétention de savoir tout. Mais malheureusement, Je sais tout.
Vous avez compris qu'avec moi, j'ai deux grands fans de cette série. Et donc, je vais vous laisser la parole avec une question peut-être. Est-ce que le rôle de femme au foyer de Samantha ne choque pas la femme moderne que tu es?
Eh bien, un petit peu quand même. Parce que dire que ma sorcière bien-aimée n'a pas pris une ride serait quand même un peu mentir. Mais elle a tout de même gardé un certain charme et se regarde toujours avec plaisir, ça c'est certain. Mais on peut sourire quand même aujourd'hui de cette vision de la femme coincée entre fourneau et aspirateur. En ce sens, la série a un peu vieilli. La femme d'aujourd'hui ne se retrouve plus du tout dans Samantha vu que la majorité des femmes travaillent. Raison de plus pour l'envier très très fort parce que moi j'aimerais vraiment bouger le bout de mon nez pour ranger ma cuisine aussi vite qu'elle. Ce serait quand même génial. Donc c'est peut-être ce côté-là qui fait qu'on aime toujours ma sorcière bien-aimée parce que on l'envie énormément. Donc la série est fantaisiste, voire un peu féerique. Elle ne recèle pas moins une critique des petits bourgeois, hein, ça c'est certain. Et c'est ce qui est intéressant aussi de le voir, c'est à l'époque, comme on critiquait assez fort les petits bourgeois, pourquoi Samantha avait tellement envie d'avoir une petite vie bien rangée, bien tristounette comme ça, avec deux enfants, les voisins, la belle famille, etc. Alors que tout le piment qu'il y a dans ce couple, c'est que justement elle soit une sorcière et que ça change leur quotidien tous les jours.
Effectivement, elle a les envies exactement opposé des téléspectateurs. Nous, on voudrait être une sorcière et elle, elle veut juste être nous. En fait.
Exactement, et c'est ça. C'est pour ça que je pense que la série fonctionne tellement bien, parce qu'on voit que tous ses amis, etc., sont fermés d'esprit, enfermés dans leurs petites conventions. Il faut pas justement sortir des sentiers battus, etc. Ce que Jean-Pierre est à 100%, lui très conventionnel. Et pourtant, c'est quand même ce qui l'a attiré chez Samantha, ce côté un peu foufou, malicieux, etc. Donc il y a une petite opposition comme ça dans la série qui est très très bonne et qui a quand même gardé toute son actualité aujourd'hui. Je voulais aussi parler du caractère assez ambigu de Samantha. La réussite de la série tient évidemment dans le rôle d'Elizabeth Montgomery qui joue parfaitement Samantha, la gentille sorcière. Donc à la fois Samantha est une femme au foyer dévouée, souvent on l'entend dire à Jean-Pierre « ce qui est bien pour toi est bien pour moi mon chéri ». Qui nous exaspère quand même un petit peu, hein, il faut bien le dire. Donc elle donne une image de femme un peu soumise. Ce qui représente assez bien l'époque. Mais en même temps, dès que quelque chose ne lui plaît pas, elle le fait savoir tout de suite. Et le premier au courant est souvent Jean-Pierre, bien sûr. Par exemple, quand un client de Jean-Pierre vient souper chez eux et la courtise ouvertement, tout le monde le remarque, elle transforme le client en chien parce qu'il s'est conduit comme un animal. Jean-Pierre, évidemment, engueule Samantha qui décide qu'elle ne rendra pas la forme humaine au client tant que Jean-Pierre ne lui aura pas fait des excuses et aura réalisé que Sam a fait ça pour se défendre et qu'elle avait tout à fait raison. Elle n'hésite pas non plus à l'envoyer dormir sur le canapé tant qu'il n'aura pas changé d'avis. Donc, elle a quand même un caractère fort, elle n'est pas si soumise que ça. Et c'est aussi ça qu'on aime bien chez Samantha. Et dans ces cas-là, elle utilise la magie. Il y a vraiment un travail au niveau du rôle et du caractère de Samantha.
C'est clairement un personnage entre deux époques.
Si on veut, c'est certain.
Un petit peu libérée parce qu'elle répond à son mari, mais pas complètement parce qu'elle reste à la maison.
Oui, et elle désire très fort être dans son foyer.
Mais finalement, c'est un peu comme I Love Lucy, où on a aussi un personnage de femme au foyer qui ne cesse de vouloir en sortir, mais n'y arrive jamais. Donc peut-être que quelque part, la télévision était un peu une pionnière dans...
Un peu précurseur, c'est certain, libération de la femme. Ce qu'il y a aussi, c'est que Sam est en perpétuel conflit avec sa mère à cause de ça. Parce qu'Andorra est beaucoup plus libérée que sa fille, évidemment, et la pousse toujours à arrêter de passer son temps inutilement dans sa cuisine, à jardiner, à passer du temps, alors qu'elle a vraiment toute une liberté devant elle qui s'ouvre à elle, et elle l'ennuie tout le temps. Par exemple, elle demande à Samantha un petit café. Samantha lui dit « Oh maman, on vient seulement de s'installer, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour faire un café. » Elle dit « Oh, ce n'est pas grave, je vais me commander tout de suite un petit café turc. » Et il apparaît dans sa main. Et dans ces cas-là, Samantha envie énormément sa mère.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.